Et c'est le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils veulent faire de ce procès une vitrine du combat social. Les anciens salariés de Goodyear à Amiens, condamnés à 9 mois de prison ferme en première instance pour avoir séquestré 2 cadres de leur usine, sont jugés en appel aujourd'hui. La CGT espère au moins 10 000 sympathisants sur place.
Après Paris, c'est à Marseille que des policiers ont organisé une manifestation surprise cette nuit. Que font le gouvernement et les syndicats face à ces agents frondeurs? Décryptage dans quelques instants.
À la une également, la suspension des raids syriens et russes à Alep avant une trêve humanitaire de quelques heures demain. Et puis l'Europe va-t-elle réussir à poser un atterrisseur sur Mars? Ce serait une première pour l'Europe spatiale. Seuls les Américains y sont parvenus. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot nous parlera des mutations économiques en Arabie Saoudite. Le pays emprunte sur les marchés financiers aujourd'hui pour la première fois de son histoire.
Et la question du jour, pourquoi le business des passeurs est-il devenu aussi rentable? Le sujet du jour, retour sur l'histoire du cinéma français en compagnie de Bertrand Tavernier.
Des milliers de personnes attendues à Amiens aujourd'hui, venues de toute la France, mais aussi de Belgique et de Suisse, pour soutenir les 8 anciens salariés de l'usine Goodyear. Ils ont été condamnés à 9 mois de prison ferme en première instance pour avoir séquestré 2 cadres de cette usine de pneumatiques, le directeur des ressources humaines et le directeur de la production, retenus après l'annonce de la fermeture de ce site qui comptait un peu plus d'un millier d'employés. Élodie Touché nous rappelle les faits. Nous étions les 6 et 7 janvier 2014.
L'affront de trop pour ces ouvriers qui ne se font plus d'illusions. Après 7 ans de bras de fer judiciaire avec Goodyear, leur usine va fermer. Mais c'est la tête haute qu'ils veulent partir avec des indemnités de départ décentes. Pour faire pression sur le groupe, les 2 cadres vont donc être retenus pendant près de 30 heures avant d'être finalement libérés. Une séquestration qui n'a pas été orchestrée par la CGT, se défendent les 8 ex-Goodyear, pour qui, au contraire, le syndicat a fait rempart et garantit la sécurité des cadres confrontés au désespoir de ses salariés. Si cette détresse est incontestable pour le procureur, il s'en fait l'écho lors du premier procès, le magistrat estime que ce n'est pas pour autant aux salariés de rendre justice. « Je ne suis coupable de rien, je suis victime d'un système », réagit aujourd'hui Michael Ouamin, qui assure qu'aucun des Goodyear ne franchira la porte d'une prison. « Nous obtiendrons la relaxe », prédit le leader CGT.
Élodie Touché de France Bleu Picardie est parmi les milliers de soutiens aux ex-Goodyear attendus aujourd'hui à Amiens. La CGT a affrété une centaine de cars. Le leader, justement, du syndicat, Philippe Martinez, et Jean-Luc Mélenchon, du parti de gauche. Une nouvelle manifestation surprise de policiers cette nuit. Une centaine d'agents rassemblés sur le Vieux-Port à Marseille à bord d'une quarantaine de véhicules de service. 24 heures après un mouvement similaire, c'était à Paris. Manifestation sauvage sur les Champs-Élysées. Des policiers avaient exprimé leur ras-le-bol dans la nuit de lundi à mardi après l'agression, il y a 10 jours, de 4 de leurs collègues. C'était à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Ils avaient été attaqués au cocktail Molotov. Mais cette exaspération, cette manifestation non autorisée avec des véhicules de service notamment sur les Champs-Élysées, fait désormais l'objet d'une enquête administrative confiée à l'IGPN, la police des polices. Une question, ce matin, le bras de fer va-t-il continuer entre la direction de la police nationale et ses agents frondeurs qui manifestent en dehors de tout cadre syndical? L'analyse de Fabien Jobard, chercheur au CNRS et spécialiste de la police.
C'est un bras de fer à 3 joueurs, le politique, les policiers frondeurs et les syndicats, qui vont vouloir eux aussi remettre ces policiers dans leur giron, tout en obtenant des gages de la part du gouvernement qu'ils sont à même de faire valoir. Mais on peut assister à ça, c'est-à-dire qu'au fond, les policiers frondeurs remettent les syndicats dans le jeu de la confrontation avec les politiques, et les policiers frondeurs rentrent dans le rang à condition que les syndicats s'alignent sur leurs revendications maximalistes. Par exemple, en ce qui concerne la légitime défense et l'usage de l'arme. On peut avoir d'autres revendications de nature cette fois-ci budgétaire que le gouvernement aurait toutes les peines à suivre, mais qui satisferait pour l'heure la colère policière. En bref, les policiers frondeurs aujourd'hui sont à même d'entraîner les organisations syndicales dans une escalade revendicative que le gouvernement ne pourrait pas suivre. Et donc c'est tout l'enjeu des semaines qui vont suivre.
Fabien Jobard, spécialiste de la police, joint par Abdelak El Idrissi. Le démantèlement de l'agence jungle de Calais plus imminent que jamais. Feu vert donné par la justice hier, saisi en urgence. Le tribunal administratif de Lille a rejeté les arguments avancés par 11 associations. Elles estimaient l'évacuation précipitée et réclamaient un diagnostic plus poussé des besoins et des risques des migrants. Certaines évoquaient même une catastrophe en cas de démantèlement dans les conditions actuelles. Argument rejeté donc. D'ici 3 mois, EDF va mettre à l'arrêt 5 réacteurs, 5 de plus, annonce faite hier soir par l'électricien. Les réacteurs des centrales de Fessenheim, Tricastin, Gravelines et Civaux sont concernés. EDF doit vérifier la résistance des fonds de générateurs de vapeur de plusieurs centrales, analyse exigée par le gendarme du nucléaire en France, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Ces arrêts de réacteurs, cumulés à d'autres, commencent à susciter quelques inquiétudes quant à l'approvisionnement en électricité cet hiver. Véronique Rebérot.
22 réacteurs nucléaires sur 58 étaient à l'arrêt hier ou en service réduit pour des raisons diverses et variées. Inhabituel à cette saison et quand même un peu inquiétant à l'entrée de l'hiver. Des arrêts en partie motivés par les contrôles exigés par l'autorité de sûreté nucléaire depuis la découverte d'anomalies sur la cuve de l'EPR de Flamanville, actuellement en construction. En juin dernier, l'ASN a demandé à EDF de mener des essais complémentaires sur les générateurs de vapeur équipant 18 réacteurs français potentiellement affectés par le même défaut que Flamanville. Certains fonds primaires de ces générateurs, fabriqués en partie par Areva au Creusot, pourrait présenter une zone de ségrégation de carbone susceptible de fragiliser l'acier des générateurs de vapeur. Des investigations ont déjà été menées sur 13 réacteurs sur 18. 6 ont pu redémarrer ces derniers jours, mais 7 autres sont toujours dans l'attente d'un feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire. Restent donc les 5 vérifications annoncées hier à mener. EDF souhaite que ce soit fait rapidement avant d'entrer dans la saison froide. La consommation d'électricité en France est traditionnellement la plus forte entre janvier et mars. Le parc nucléaire doit être en état de marche. Normalement, ces arrêts pour investigation ne doivent pas s'éterniser, sans quoi il faut espérer que l'hiver soit doux.
7h07, la suite du journal sur France Culture, Catherine Dutu. L'économie, l'immigration, mais aussi les points chauds dans le monde. C'est le programme du débat entre Hillary Clinton et Donald Trump ce soir aux États-Unis.
Le dernier face-à-face télévisé dans la course à la Maison-Blanche, ce sera depuis Las Vegas, dans le Nevada, un état où les Hispaniques représentent un quart des électeurs, un facteur crucial à l'échelle du pays pour les démocrates. On y revient dans le journal de 7h30 avec le choix de la rédaction signé de notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Carbone. Pour le président américain, Barack Obama, la bataille pour Mossoul s'annonce difficile. Déclaration au deuxième jour de cette offensive en Irak, alors que les dizaines de milliers de combattants mobilisés pour reprendre le berceau du califat autoproclamé du groupe État islamique ont gagné du terrain hier. Moscou suspend ses raids aériens à Alep, la ville du nord de la Syrie bombardée à un rythme intense depuis presque un mois maintenant. Plus de raids, un signe de bonne volonté, explique la Russie, alliée du régime de Bachar el-Assad, avant une trêve de quelques heures demain. Un cessez-le-feu censé permettre aux civils de quitter la ville s'ils le souhaitent. Méfiance de la diplomatie américaine qui attend de voir si ses engagements seront respectés. Beaucoup d'attentes également au sein d'une délégation de casques blancs et de médecins d'Alep de passage à Paris. Hier, à l'Assemblée nationale, ils doivent rencontrer François Hollande. Aujourd'hui, le docteur Tamam Loutdami, membre de l'Union des organisations de soins et secours médicaux, espère que cette nouvelle trêve servira à acheminer de l'aide humanitaire aux 250 000 personnes qui vivent encore dans les quartiers assiégés d'Alep, car il y a urgence.
Les hôpitaux et les installations sanitaires sont visés d'une manière absolument extraordinaire. Nous n'avons jamais vu ça par le passé, c'est catastrophique. Dans la ville d'Alep, depuis le début du dernier blocus, les installations de santé ont été ciblées à 46 reprises. Parmi le personnel médical, on a déjà eu 654 morts en Syrie. Lors de ma dernière visite, j'ai vu dans un hôpital, il y avait un lit et sur le lit, il y avait deux enfants sur un même lit parce que nous n'avons pas assez de lits pour mettre les enfants blessés. Et les médecins sont confrontés à des choix absolument extraordinaires. Par exemple, nous n'avons qu'un seul respirateur alors qu'il y a plusieurs malades ou deux malades qui en ont besoin. Comment choisir parmi celui que je vais soigner et qui va profiter du respirateur? Ce sont des tragédies qui se répètent quotidiennement.
Le docteur Tamam Loutdami répondait à Olivia Cohen. Et sur le terrain, hier, les bombardements russes ont fait au moins 5 morts. Une famille qui vivait dans les quartiers est d'Alep, contrôlée par les rebelles. C'était avant l'annonce de cet arrêt des frappes. Cette annonce de trêve en Syrie intervient alors que Vladimir Poutine se rend à Berlin. Aujourd'hui, le président russe participe au premier sommet depuis un an sur la crise en Ukraine avec les dirigeants allemands, français et ukrainiens. Comment trouver une issue au conflit dans l'est de l'Ukraine qui a fait plus de 10 000 morts depuis le printemps 2014. La relance du processus de paix de Minsk est compliquée par le dossier syrien, compliquée également sur le terrain, notamment après l'assassinat dimanche de Motorola, un chef de guerre controversé de Donetsk. La correspondance à Kiev de Sébastien Gobert.
La mort de Motorola serait une déclaration de guerre. Le constat d'Alexander Zarachenko, le chef autoproclamé de la République de Donetsk, peut surprendre après plus de 2 ans et demi de conflit. Mais il traduit un dangereux regain de tension sur la ligne de front. La période de deuil officiel se prolonge dans les territoires séparatistes, mais les duels d'artillerie lourde se sont multipliés depuis l'annonce de l'assassinat de Motorola dimanche dernier. Le chef de guerre et son garde du corps ont été tués dans l'explosion d'une bombe dans un ascenseur. De son vrai nom Arseniy Pavlov, Motorola était adulé à Donetsk pour son rôle actif dans la défense de la ville. Il figurait même sur des timbres émis par la République autoproclamée. Côté ukrainien, il était haï, comme un mercenaire russe probablement coupable de crimes de guerre. Les séparatistes accusent les services secrets ukrainiens, voire des groupes nationalistes infiltrés à Donetsk de l'assassinat. Les Ukrainiens, eux, privilégient la théorie d'un règlement de compte interne aux forces pro-russes et russes. D'ailleurs, plusieurs chefs de guerre à Donetsk et Lugansk pourraient être visés à leur tour, selon plusieurs sources. Mais que ce soit des vendettas ukrainiennes ou des guerres de chefs, ce meurtre et le regain de violence qui le suit rappellent que la situation sécuritaire reste très précaire. La phase armée du conflit n'est pas terminée, et dans ces conditions, la tâche des négociateurs semble plus complexe que jamais, et les perspectives d'une paix durable toujours aussi éloignées.
Sébastien Gobert à Kiev pour RFI et France Culture. Un grand jour pour l'Europe spatiale dans le cadre de la mission ExoMars. L'atterrisseur baptisé Schiaparelli va se poser sur la planète rouge. Un défi que seuls les Américains ont su relever à présent, tant les échecs de missions spatiales sont nombreux avec Mars. L'engin de 577 kg s'est détaché de l'orbiteur dimanche. Depuis, il fait une chute libre à très grande vitesse. La phase finale aura lieu vers 16h30 aujourd'hui. Un freinage brutal pour un final plutôt physique, Sophie Becherel.
6 minutes pour survivre, ce pourrait être le titre de la dernière séquence spatiale de l'atterrisseur Schiaparelli. L'engin de 600 kg et large comme une piscine gonflable fonce actuellement vers la planète rouge à 21 000 km par heure. Et il devra, en 6 minutes chrono, ralentir sur 120 km de distance seulement. Son bouclier thermique sera son premier frein, relayé par un parachute géant, puis 9 rétrofusées. Sur le dernier kilomètre, le module est capable de corriger son assiette si besoin et de moduler légèrement sa vitesse. Mais ça reste un freinage violent. Quant au choc final, il est prévu qu'une structure en nid d'abeille écrasable serve d'ultime amortisseur. Toute cette séquence est risquée pour deux raisons. La présence de vent qui souffle actuellement sur Mars, mais les ingénieurs l'ont anticipé, et surtout la complète autonomie de Schiaparelli. 6 minutes, c'est moins de temps que ce qu'il faut pour parler à la sonde. Aucune commande à distance n'est donc possible. Et puis, une fois posé à 16h43, il faudra encore attendre presque 2 heures pour avoir des nouvelles de l'engin, le temps que la sonde Mars Express le survole et capte son signal. S'il a survécu, alors il pourra commencer son programme de travail de 8 jours, essentiellement de l'observation météo.
Le temps de ce mercredi 19 octobre, de la grisaille dans la moitié nord du pays, avec des averses, plus de soleil dans le sud. Cet après-midi, comptez entre 10 et 15 degrés dans le nord et le centre-est, jusqu'à 19 dans le sud-ouest et 22 près de la Grande Bleue.